France Inter. Philippe Bertrand.
Carnet de campagne, bonjour. Pour cette nouvelle étape dans Lyon en ouverture, vous allez découvrir, tout comme nous l'avons fait, que Claude Debussy avait une attache dans ce département. C'est dans un hameau de la commune de Villeneuve-la-Guyard que le compositeur a passé plusieurs étés. Il a même composé des pièces majeures de son répertoire. Une association s'est créée dans le but d'ouvrir un lieu dédié au compositeur. Et puis en catégorie économie circulaire et dans la logique rien ne se perd, voici un nouveau produit. Compo Plume, réalisé à partir des volants de badminton. C'est en Loire-Atlantique que Benjamin, créateur de cette entreprise, a mis au point son procédé innovant. Il nous en parlera dans la deuxième partie de ses carnets.
Carnet de campagne. Le journal des solutions.
Marie-Jeanne Bailly, bonjour.
Bonjour Philippe Bertrand.
Vous présidez l'association des amis de Claude Debussy à Bichin, un mot, il faut bien le chercher, à ville, d'un côté de Villeneuve-la-Guyard, entre Fontainebleau et Sens, qui aurait été un lieu de séjour de Claude Debussy entre 1901 et 1903.
Oui, absolument. Et nous mobilisons tout un ensemble de partenaires et de collectivités pour un projet de restauration de la petite maison rurale où il habitait avec sa femme Rosalie.
Est-ce que vous avez suffisamment d'éléments pour consacrer un lieu à Claude Debussy chez vous ?
Absolument, j'ai fait déjà une exposition qui a été présentée dans plusieurs lieux de Lyon, une trentaine de panneaux, j'ai fait beaucoup de recherches à la Bibliothèque Nationale, j'ai fait venir à l'époque où je faisais ces recherches des lettres de Claude Debussy à sa femme Rosalie qui n'était pas publiée à l'époque, j'ai réuni les 45 lettres écrites de Bichin, de Claude à son éditeur, à ses amis. Et puis j'ai des photos, j'ai des reproductions de partitions autographes de Debussy que je présente et je raconte tous les trois séjours de Claude. Et puis aussi je fais une courte histoire de sa femme Rosalie qui n'est pas connue puisque c'est la seconde femme Emma Barda qui est connue de la plupart des personnes qui se sont intéressé à Claude Debussy.
Qu'est-ce qui avait conduit Claude Debussy à séjourner à Bichin ?
Alors, c'est la santé de sa femme Rosalie. C'est l'époque où il était très pauvre. Hein. Il venait de composer Prélude à l'après-midi d'un faune. Il commençait à être connu, mais il ne gagnait pas d'argent, bien sûr. Hein. Donc, il s'est marié en 1899 avec Rosalie. Et puis, elle est tombée malade et comme il n'avait pas d'argent pour la soigner par un médecin, il est allé à la campagne, dans la maison des parents de Rosalie, dans un premier temps, et après il a loué cette petite maison que nous voulons restaurer.
Et alors cette petite maison a vue sur la mer, je fais un jeu de mots évidemment.
Oui, c'est un jeu de mots. Il appelait ça la houle des blés qu'il inspirait pour composer la mer.
Oui, c'est incroyable, il a composé cette page illustre de la mer à Bichin. Et vous avez pu acquérir le piano de Claude Debussy ?
Absolument, il y a un film qui avait été tourné par FR3 en 85 par François Le Sieur qui est le biographe de Claude Debussy, qui montre une personne qui avait connu Claude Debussy quand elle était jeune et le piano sur lequel il jouait. Et nous avons pu retrouver le propriétaire et acquérir ce piano, donc il sera montré avec tous les autres éléments de l'exposition.
Comment sera organisée cette maison Claude Debussy à Bichin ?
Elle est composée d'un rez-de-chaussée à peu près 100 mètres carrés et nous allons reconstituer l'intérieur d'une maison paysanne en 1900 puisque cette maison est très modeste, hein, bien sûr. C'est une maison paysanne de l'époque. Et nous allons reconstituer avec lit, armoire, piano, comme si c'était la chambre de Claude et Lily. Et à côté, il y aura une salle pour des expositions, concerts, conférences. Nous recevrons différentes populations, mais surtout, moi en tant que professeur de musique, nous donnerons la priorité à la pédagogie auprès des enfants et des jeunes Et j'ai pu m'apercevoir qu'ils sont très sensibles lorsqu'on leur raconte une histoire qui s'est passée près du lieu où ils habitent. Et nous leur offrirons aussi des prestations musicales, bien sûr.
Et pour le financement, il y a une souscription sur le site de la Fondation du Patrimoine ?
Absolument. Il faut taper Fondation du Patrimoine, tout attaché, point, Maison de Bussy.
Très bien. Et or, le début des travaux est prévu pour quand ?
Alors, est prévu deuxième semestre 2022.
Voilà, avant une ouverture, j'imagine, 2023-2024 au plus tard.
Oui, absolument.
Voilà, une naissance, voilà. Celle de la future maison Claude de Bussy à Bichin, avec
oui.
L'association... Des amis du compositeur présidé par Marie-Jeanne Bailly. Debussy à Bichin.com pour l'adresse aussi, si vous voulez.
Debussy à Bichin.com.
Mieux connaître.
Et je voudrais préciser que nous ferons appel à une association d'insertion de sens pour la végétalisation du site.
Merci Marie-Jeanne.
Voilà. Et bonne année à vous aussi, et merci de nous permettre de nous exprimer sur France Inter.
France Inter, carnet de campagne.
J'ai reçu une amicale mais étonnante suggestion de Jackie Castan. Bonjour Jackie. Jackie dirige un théâtre, même trois, depuis Épinal, sous le nom de Seine-Vosges. Seine-Vosges, c'est effectivement la scène du théâtre municipal d'Épinal, de l'auditorium de la Louvière à Épinal et du théâtre de la Rotonde à Thaon-les-Vosges. La lettre de Jackie s'interroge sur l'entre-soi des lieux culturels, je cite, sur une thématique comme celle liée à la crise des migrants. Il ne m'intéresse que peu de proposer un spectacle qui sera joué devant une majorité de spectateurs convaincus par les propos. Cette réflexion, qui remet en cause tout autant les canaux de diffusion de la culture que les missions qui lui sont associées, l'a conduit à travailler sur un drôle de projet, une journée du patrimoine humain. Je cite encore, au cœur de ce projet, non plus les bâtiments, mais les femmes et les hommes qui portent une culture qui n'a pas suffisamment de place dans nos structures culturelles. Le projet qui devrait se réaliser en mars 2023 aura la forme d'une bibliothèque vivante. Prenez pas ça mal, hein. C'est une bibliothèque dans laquelle les livres sont des personnes qui racontent une facette de leur vie, leur expérience professionnelle, de leur engagement, qui dialoguent avec le lecteur. Et pour préparer ce programme insolite, mais qui est déjà expérimenté occasionnellement d'autres endroits, Seine-Vosges recherche des structures, des associations ou des groupes de personnes susceptibles de participer à ce montage événementiel. On peut entrer en contact directement avec l'ami directeur du théâtre par le biais du site, c'est seinevosges.com. Benjamin Moreau, bonjour.
Bonjour.
Vous avez une drôle d'idée, elle nous plaît beaucoup. Aujourd'hui, dans l'économie circulaire, éviter les déchets. Vous valorisez un déchet absolument inattendu, le volant de badminton. Il faut dire que vous pratiquez depuis longtemps.
Oui, je pratique depuis très longtemps, depuis que j'ai l'âge de 8 ans dans la région nantaise, en compétition principalement. Et il y a un déchet effectivement qui est un petit peu atypique dans le monde du badminton, qui est le volant, qui est fabriqué principalement à partir de liège et puis de plumes d'oie.
Je signale, parce que vous ne l'avez pas précisé, mais je le dis pour saluer le club, vous êtes licencié au club du Leroux-Bottereau. Alors, est-ce que le volant a une courte durée de vie ? Parce que ça, je suis pas au courant, moi je suis un amateur, je joue avec des trucs en plastique l'été sur la plage.
Alors oui, c'est un produit qui peut avoir une durée de vie assez courte, en fonction des niveaux de jeu forcément. Sur un match de niveau départemental ou régional, ça peut représenter 4 ou 5 volants par match. Et ça peut aller jusqu'à une cinquantaine de volants sur une finale de Jeux Olympiques, par exemple.
Vous vous êtes dit, mais comment recycler ? D'abord, est-ce que c'est possible ? Oui, c'est toujours possible. La partie liège, on l'imagine. La partie plume, peut-être plus difficilement.
Ouais, tout à fait. En fait, mon histoire, c'est plutôt une histoire professionnelle dans le domaine technique, donc des matériaux. Et au bout d'un moment, j'ai eu marre de voir ces volants jetés à la poubelle et puis j'ai commencé à chercher une solution. Donc l'idée de base, c'était pourquoi pas les réparer, mais c'est vraiment compliqué. Puis ça modifie vraiment les caractéristiques du volant. Et l'idée qui est arrivée ensuite, c'était de récupérer ces volants et puis d'essayer de créer un nouveau matériau à partir de ce déchet. Et c'est ce que j'ai fait en créant Compo Plume. Donc le principe, c'est que les volants sont récupérés auprès des clubs un peu partout en France, sont broyés plus ou moins finement selon le rendu visuel et puis les propriétés mécaniques qu'on veut obtenir. Et ensuite, ils sont mélangés à un liant. Alors, ça peut être un liant complètement naturel, ça peut être un liant qui est acrylique, un petit peu pétro-sourcé. L'idée, c'est de pouvoir créer des matériaux pour le marché de l'ameublement et de l'architecture d'intérieur, du mobilier ou de la décoration. Du coup, là, il y a trois versions de matériaux qui sont parties et commercialisées, qui sont fabriquées encore très, très artisanalement. Donc deux versions plutôt pour du mobilier, donc des plateaux de bureau, plateaux de table basse, plateaux de table de salon, pourquoi pas. Et une version qui est plutôt destinée à faire du parement mural avec des fonctions d'absorption acoustique.
Benjamin, vous avez créé une société, donc Compo Plume, sous forme de société par action simplifiée unipersonnelle sur une SASU. Ça signifie quoi ? Ça veut dire que vous êtes le seul actionnaire ?
Oui, tout à fait. Je suis le seul actionnaire, en tout cas pour le moment. L'idée à terme, c'est pourquoi pas de faire rentrer d'autres actionnaires, voire un investisseur en fonction de la tournure que ça prend.
Je suis allé voir votre site compoplume.fr. Il y a aussi la page Facebook. J'ai vu qu'il y a une personne qui vous reprochait, d'une certaine manière, de rendre la collecte auprès des clubs payante.
Oui, tout à fait. Donc c'est un débat qu'on a assez souvent avec les présidents des associations et des clubs de badminton. Aujourd'hui, là, moi, je propose une boîte de collecte à disposer dans les gymnases. Ouais. La logistique, elle est assurée par Colissimo, hein, donc par le groupe La Poste. Et aujourd'hui, sur la collecte, la société ne gagne quasiment pas d'argent. C'est moins de 1% de marge, donc vous voyez, c'est vraiment histoire d'avoir des frais de fonctionnement. J'explique souvent au président du club qu'il faut apparenter ça à une espèce de taxe d'ordure ménagère, et que c'est aussi de leur responsabilité de pouvoir prendre en charge les déchets que ce sport génère. Ça déclenche des discussions.
Mais Benjamin, c'est pas du tout un reproche, là, mais il y a peut-être une solution, d'ailleurs. Je crois que vous l'avez évoqué, c'est de proposer aux fabricants de volants de marquer le coût par une taxe, une petite taxe comme ça arrive sur beaucoup de produits, taxe écologique, une participation écologique qui permettra d'assumer ses frais auprès des clubs.
Ouais, c'est effectivement une des pistes qui entre dans la discussion. Donc moi, je travaille de manière assez rapprochée avec la Fédération française pour essayer de structurer cette collecte. Et que le coût soit le moins important possible pour les clubs. L'idée, c'est pas de saigner les associations. Je suis moi-même dirigeant d'un club au Lorobotro. Mais effectivement, il y a plusieurs dispositifs qui sont envisageables. Donc, ça peut prendre la forme d'une écotaxe, ça peut prendre la forme d'une participation forfaitaire sur une licence. Enfin, il y a plein de dispositifs à imaginer. Mais là, on se posera vraiment la question quand on aura besoin de collecter l'ensemble du volume sur la France. Pour le moment, on n'est pas le cas.
Oui, bon, on lance l'appel. Hein. Amis des clubs de badminton en France, n'hésitez pas. Vous allez sur compoplume.fr. C'est drôlement bien la valorisation de ce déchet. Aussi indispensable, et vu le résultat de la production qui en ressort, c'est vraiment porteur d'espoir. Merci et longue vie à Compoplume, Benjamin.
Merci beaucoup. Bonne journée.
Une petite et belle histoire rapportée par Marie. Merci à elle. Ça se passe à Uzest, au sud de la Gironde. 420 habitants, village connu grâce au jazz que Bernard Lubin martèle depuis des décennies. Donc à Uzest, la boulangerie avait fermé en 2019. Elle renaît depuis août dernier grâce à une société coopérative qui réunit 250 habitants du village et des environs. Tout a été participatif en chantier pour créer une vitrine, construire un four à bois immense, peindre le local. Et donc depuis le 2 août 2021, 80 bénévoles comme Marie participent à la gestion de cette boulangerie, tandis que 2 salariés mettent la main à la pâte. On attend d'ailleurs prochainement un troisième qui sera pâtissier. La synergie est telle que les bénévoles vont récupérer du bois pour alimenter le four et le local accueille aussi des expositions. J'aime beaucoup cet endroit.